Lundi 5 février, Radio Galère 88.4. Nous sommes en compagnie du collectif de cinéastes numéro 0 de Marseille. Pendant une heure et demie, on va parler production, on va parler surtout diffusion. Ils vont se présenter. On a aussi une invitée amie, Clémence. Et là, on écoute un petit bout de son du film de Jean Vigo, 1933, Zéro de conduite.
Eh ben, bonsoir à tous. Peut-être avant, j'ai entendu juste le début du lancement de son et j'ai dit non à Lolo qui est de l'autre côté. On est plusieurs ce soir. Il y a Fab et Lolo d'un côté, de l'autre côté. Peut-être ça va switcher un peu durant l'émission. Il y a Waïb en face de moi.
Bonjour Carou.
Il se cachait, je ne le voyais pas.
Bah, il est là. Il y a Clémence, Julie et moi-même, je suis Caro. Et voilà, on vous a prévu quelques petites interventions sonores pendant l'émission. On a eu envie, suite à une programmation sur deux jours à Vidéodrome 2, qui est un lieu de cinéma à Marseille, qui est un lieu assez ouvert à plein de types de soirées, de projections différentes. Enfin, en tout cas, ils sont ouverts à l'accueil de plein de collectifs différents. Ils ne sont pas regardants sur ce qui est projeté, ce qui est assez intéressant, ni même sur la manière dont les soirées peuvent se dérouler. Donc c'est un bel espace de jeu. Et voilà, on avait envie de revenir un peu sur les deux soirées qui se sont déroulées la semaine dernière.
Voilà.
C'est un peu un cinéma de quartier, on peut dire, à Marseille, qui existe depuis 2-3 ans. Vidéodrome 2, au cours Julien. Voilà. Alors oui, sur les programmations de la semaine dernière, c'était mercredi et jeudi.
Mercredi, jeudi, ouais.
Voilà.
Où l'idée c'était de numéro zéro et inviter, ou en tout cas projeter des films également de la France entière, qui est un autre collectif. Et donc il y a eu 4 films, 3 documentaires, une fiction. La première soirée, on a projeté Ici, de L'eau qui vole et Alléluia de Jean-Baptiste Alazard. Et on se proposait un peu de revenir et de discuter sur ces films-là, sur les projections.
Et ouais, le deuxième soir, en fait, il y avait... un film qui s'appelle La nuit éclaire la nuit de Lotivol qui est en train de nous présenter l'émission et le film de Diorca en fait qui est le personnage principal du film Alléluia qui est donc un documentaire qui a été réalisé en 2016 et donc j'allais dire l'égérie mais en tout cas le personnage principal de ce film-là documentaire a eu fait des films de fiction. Et c'était un peu dans l'idée de croiser ces deux films, donc La nuit éclaire la nuit, qui est aussi un film documentaire, qui revient aussi sur des films antérieurs, sur deux films antérieurs. Et voilà, c'est un peu des histoires comme ça, croisées entre cinéastes et des cinéastes qui remettent eux-mêmes d'autres cinéastes dans leurs films. Et ces films aussi, au-delà de ça, parlaient de... pour moi... parler de ce qu'on peut appeler l'habitat, en tout cas de comment on habite. Du coup, ça, pour moi, ça pouvait poser la question de comment on habite le monde. Et voilà, je pense que peut-être le point commun de numéro zéro de la France entière, c'est peut-être aussi de se dire que le cinéma est un lieu utopique qui peut quelquefois servir de maison, même si c'est pas des briques. En tout cas, enfin, moi je fais beaucoup de montage et j'ai l'impression que quand je monte un film, C'est, je me retrouve vraiment face à un chantier où j'ai la matière première et petit à petit, ben, je prends les briques, je commence à construire une structure et c'est, ben, c'est un peu comme moi, enfin voilà, ça me, c'est mes petites cabanes. Et voilà, c'est un peu, enfin le titre de la programmation, c'était Habitat fragmentaire et fragmentation des histoires. Aussi, bah ça, ça parle aussi ça de montage et peut-être de montage de nos vies aussi, de comment on croise les phrases, les gens, les morts, les vivants qu'on rencontre et comment, tout, comment on peut faire du collage avec tous ces fragments et, que, et qu'on arrive à se construire des, bah de la pensée peut-être. Voilà, mais peut-être on peut, du coup, le premier soir, on avait eu envie avec Julie de, plutôt que de présenter d'une manière un peu classique nos parcours, je sais pas, de vie avec ces collectifs, on a eu envie plutôt de, du coup, de faire du montage et on va vous faire écouter ça, ça dure 8 minutes et on se retrouve après.
Je veux dire, le but, c'est quand même de se faire un petit coco.
Tu essayes d'aller, tout droit parce que je sens que tu as des trucs que tu veux pas lâcher.
Ouais, mais c'est inconscient.
Des fois, tu te transformes. Et,
mais c'est, je cherche à le lâcher, mais c'est inconscient. Je pense tu vois, que le but de la vie, c'est quand même de se faire un petit cocon. De se faire un petit terrier, tu vois.
Mais ouais, faut pas cracher dessus. Hein.
C'est, t'as que ça à faire, quoi. T'as que ça à faire. Après, t'es pédard, tu peux faire n'importe quoi. Et t'as beau être tout seul, ouais, avec 10 gosses. Si dans ton chez-toi, t'as cette chaleur humaine que les gens ils viennent chercher dans un bar, tu vois. Et ben, c'est là que t'es vraiment refait, c'est là que t'es vraiment libre. C'est là que, tu vois, c'est là que c'est du luxe d'aller au bar, quoi. Tu vois où je veux en venir ou pas?
Ouais, je vois que tu veux en venir, mais ça arrive à créer ça aussi.
Réussir à créer cette chaleur.
Sans trop le vouloir, quoi. Mais...
Réussir à créer cette chaleur à l'intérieur.
Il y en a, ils le font sans le vouloir, les gens ils viennent chez eux parce que c'est ouvert.
Voilà, il y en a qui ont le feu, il y en a d'autres qui l'ont pas.
C'est le refuge.
Moi je l'ai pas tant que ça, tu vois.
Non, parce qu'il y a un truc dans l'éducation et dans... je sais pas quoi.
Tu vois, je pourrais pas zoner éternellement comme ça, enfin, tout seul, tu vois, entre guillemets.
Mais non, mais déjà, on ressent que, tu vois, même à 27 balais, juste déjà.
Ça commence à tirer, tu sais, puis là, si on était pas si on était pas soudés, quand même, le moral, il serait pas aussi bon, quoi. Ouais. Tu vois, il y a vraiment... c'est fragile, quoi, ce lien humain, tu vois, cet espoir humain, il est fragile. Il est très fragile.
Parti,
JB. Parti. Le savon est derrière.
Toi, couleur rouge, toi.
Bonjour.
Bonjour.
C'est marqué avec des plus jeunes.
Dans la caméra.
Putain, pourquoi c'est si cher les laboratoires, hein?
Et pourquoi les autoroutes sont si chères aussi?
C'est comme les laboratoires.
C'est comme les laboratoires.
C'est pas Marchand qui continue. Je vous étiens là bien ta caméra.
Eh monsieur, le cinéma!
Marc, je vais demander combien il gagne. Voilà le cinéma de Guérilla, c'est demander à ce type combien il gagne. Et nous, on lui demandait, monsieur le cinéma. Pourquoi tu veux couper? On coupe jamais ici chez nous. Clac!
Pour la première fois, il me semble que je vois un peu plus clair. Tout d'abord, parallèlement au gommage que j'essayais de faire de film en film depuis le début, je voulais être révolutionnaire. C'est-à-dire ne pas faire des pas en avant dans le cinéma, mais essayer de faire des grands pas en arrière pour revenir aux sources. Le but que j'ai essayé d'atteindre depuis mon premier film, c'est de revenir à lumière. J'ai toujours été contre les techniques nouvelles. Je suis peut-être réactionnaire, mais je crois être en cela révolutionnaire.
Putain,
temps passerait très simple, où je t'aurais dit je t'écris pour te dire. Aujourd'hui, je te filme pour te dire, et je te parle pour te dire les nouvelles d'ici. Mon histoire est sans fin, et de toutes les façons, ce sera toujours la même histoire. Une histoire d'homme qui cherche le soleil. Rouge, bien sûr. Une histoire de soleil à égale distance de tout le monde. Et si les récits de lune m'intéressent, c'est toujours pour mieux raconter ces soleils.
Alléluia, c'est une fugue de la Buissonnière. Il y a Diorca, un monsieur d'un certain âge qu'on entend parler. On dirait la pellicule quand on le voit. Il est pieds nus dans un champ, mais c'est parce qu'on voit un enfant. Il y a beaucoup de matière à poser par un montage nerveux et ça parle sans cesse mais avec des silences. De la vie, ça dit ça. Il n'y a pas d'idéal de vie. Ben ouais, c'est la vie l'idéal. De partout, ça transpire, ça réchauffe, puis ça se raconte dans les bévues de langage, les ruptures de plans, une maison biscornue que t'as jamais vu ça, et des gens qui sourient. Il y a de l'inquiétude et du passé. Des images VHS, un homme en peignoir de bain. Mais ça, c'est la fin. Des écritures manuscrites pour les chapitres. Des chapitres, un peu comme les cartes du tarot de Marseille. Mais ils connaissaient pas eux là, nous.
Telle qu'elle est au Lipo, la vie a décidé et a choisi la page des faits divers. Roberto Bolaño, étoile distante.
Je me souviens, je vous ai dit, peu à peu, on se demande ce qui arrive. Cette disparition du son. Avec la montée du soleil. C'est là que cette peur arrive. Pas celle de la nuit, mais comme une peur de la nuit, dans la clarté. Le silence de la nuit en plein soleil. Le soleil au zénith. Et le silence de la nuit, le silence au centre du ciel, et le silence de la nuit. Quand les autres sont arrivés vers 2 heures de l'après-midi, on est redescendu vers la ville, Athènes. Et puis rien n'est arrivé. Rien d'autre que toujours, partout, ce manque d'aimer.
On entend les pneus, hein ? Entend la fougue, entend la douleur. Entend la hargne émancipée qui prend le pari de l'existence. Entend notre foi en la force du vent et aux nuages qui filent.
Et aux nuages qui filent. L'expérience définit le monde et les nôtres ne figureront pas dans les archives de l'histoire. Nous sommes les oubliés, se bâtissant des brèches fertiles. Nous battons fermement le sol de notre époque, le cœur arraché et sensible. Dans le bordel et la pauvreté que nous pensons créateurs d'intelligence.
Une résistance poétique.
Une résistance romantique. Nous quêtons à nous réapproprier les gestes.
Nous sommes infiltrés tel un nuage invisible dans l'espace.
Habitant la pierre au bout d'un chemin de ronces.
Buvant des cafés chauds. Faites de
les
briques et de verso
contre la fonte des cafés chauds. Rythme des lumières des saisons.
Nous n'observons plus notre destin tristement taché de sang.
Dans cette démence.
Tant pis pour les cicatrices. C'est retourne
l'invisible.
Alors voilà, c'était le petit bout de son montage qui était proposé au début de la programmation du mercredi, avant le film Ici et Lira.
Et nous revenons donc sur la programmation du mercredi. ici à l'Alouia. Moi, j'avais un peu juste envie de revenir sur une question juste de sensation. On en a parlé un peu avec quelques amis aussi à la sortie du film, qui était sur comment est-ce qu'on habite un film, ou en tout cas comme un endroit où on aimerait habiter. Et en tout cas, moi, quand j'ai revu Alléluia, que j'avais déjà vu quelques fois au préalable, le mercredi, eh ben, j'ai eu envie d'habiter totalement ce film. J'ai envie d'être avec les enfants que je pouvais voir dans le film, au coin du feu avec ce vieux monsieur qu'on retrouve régulièrement. Et presque être dans ce monde-là qui m'est proposé, quoi. Quelque chose comme ça, assez fort de se dire... Alors peut-être un film, ça peut être notre endroit. En tout cas, l'endroit où on aurait envie de passer du temps et de le poursuivre en dehors du film.
Ben, en tout cas, ça a résonné comme ça. Dès qu'on...
C'est pas assez fort.
Dès qu'on disait au chapitre 5, je pense que la beauté existe. Et là, on est pris dans des limbes d'eau, etc. Et juste de présence, il y a même un espèce de petit chat. Et pour la blague, ça a l'impression d'être une espèce de revanche totale sur les vidéos YouTube de petits chats à la con. Parce que là, tout d'un coup, t'as vraiment un petit chat, t'as vraiment les chiens et t'as effectivement cet enfant qui est dans l'eau, qui danse. Il y a quelque chose d'une simplicité totale et de ce que nous, on voit déjà, en fait, de la beauté, en se disant qu'elle existe et qu'effectivement, on revient à elle, quoi. Et sur la route, moi, en sortant du film, effectivement, j'étais reprise par ces masses d'eau, j'avais l'impression d'avoir nagé dedans, d'être... et effectivement, d'être habitée, et là, de pouvoir habiter à un endroit. À la limite, si ce n'est pas l'endroit même où se tourne le film, l'endroit où moi, je peux regarder, et par lequel je peux regarder ce qui se passe, quoi. Donc, pour répondre.
Ouais, non, aussi, je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est pas exactement forcément l'endroit du film, mais comme si le fait de le voir était un prolongement, à se dire, ok, alors, allons-y, quoi. En effet, si la beauté existe, comme tu dis... alors il faut l'apprendre, il faudrait être à cet endroit-là.
Et puis ça résonnait avec cette histoire d'œil dont on parlait là juste avant, et qui est effectivement l'histoire de l'œil de la caméra. Donc on disait Medvecki, qui est donc à ce moment-là juste ce vieillard dénudé de Alléluia, avant qu'on voit son film, alors que c'est un mec qui est censé être le grand espoir des cahiers du cinéma, qui a été... dont Picasso a été le mécène. Et là, ce mec complètement dénudé, à la limite de l'aborigène et de l'hindou, cultivant sa terre, reprend une caméra, l'interroge complètement, la tourne, la retourne, ne sait pas exactement comment on s'en sert, et regarde, et là il nous met à la place d'un œil, et il la regarde d'une façon qui est à la limite du cocasse et du malaise, parce qu'il met mal à l'aise la personne qui regarde en lui disant « Oula, t'as un visage super dur si je te regarde comme ça. » Mais il manipule cet objet en le crevant, puisqu'après il va parler du regard. Et à partir de ce regard-là, effectivement, on est dans la question de comment on habite ici et maintenant, quoi. Sans non plus une espèce d'utopie géniale. En fait, il y avait ce texte que j'entendais à moitié quand on discutait, où tu disais une cabane aussi biscornue, parce que c'est pas du tout une habitation, l'endroit qui nous est proposé. Il y a 3 feuilles de salade, etc. Enfin, comme je l'ai senti.
Oui, puis c'est même aussi, je pense que ça c'est un peu le dépassement qu'il peut y avoir aussi entre le moment où tu visionnes le film et ce que tu t'en fais après. Et en fait, moi, dans mes souvenirs, après avoir vu Alléluia, je voyais une maison très biscornue. Et en revoyant le film, les quelques plans sur la maison, je me dis, bah... peut-être c'est un peu fait, c'est une cabane, c'est pas une maison en dur, mais elle est pas si biscornue, et c'est plutôt l'image en fait que j'en avais en fait.
Moi c'est aussi, j'ai la même, hein, donc je pense que c'est quand même cool.
Mais c'est lui qui l'a rend biscornue. Enfin, c'est aussi sa présence dans ce lieu qui donne la forme au lieu, je pense.
Ouais, puis la matière du film aussi qui donne beaucoup de relief en fait. Je pense que c'est le moment où Dürkheim justement, je pense que le moment aussi où il s'empare de la caméra du filmeur et qu'il dit mais qu'est-ce que je suis en train de voir à travers ça, c'est très étrange et tout, c'est que lui, bon, il y a des images d'archives, de ses archives personnelles à l'intérieur du film, et il a filmé un petit peu certainement en comme ça, en dilettante et avec beaucoup d'amour avec une caméra vidéo, mais je pense qu'à l'époque où lui a fait ses films, il a eu un vrai désir d'images, et à partir aussi des sculptures qu'il faisait, et il se servait du noir et blanc et de la pellicule, et que c'était pas la même chose que là, d'un coup, il regarde à l'intérieur de cette image faussée en numérique qui lui donne une autre vision et il questionne ça.
Et c'est pas du tout le même outil, le numérique à la caméra.
Le même registre.
Et il dit une chose très belle à un moment donné, justement, quand il prend cette caméra. Il dit, c'est étrange, normalement, il y a deux miroirs, mais là, on dirait qu'il y a 200 miroirs. Et en réalité, le numérique, c'est plus des miroirs, mais oui, c'est pas 200, c'est 2000, 2 millions de pixels. Et presque naïvement, en prenant l'outil, il se rend compte, et il parle déjà de la technologie qui est en train de changer. Il y a quelque chose...
Parce que dans son film, il est quand même déjà dans... Parce qu'on dit, ouais, c'est... Enfin, tu disais, c'est rapide, c'est une autre caméra, mais c'est quand même très réfléchi, très pensé. On est dans un cinéma qui est proche de Buñuel, etc., dans... Du coup, le Marie et la curée.
Le curé
c'est... Et qui est hyper construit dans les scènes. Et où il y a une graphie, quoi. Et alors que là, tout d'un coup, dans ce matériau brut qui est censé rendre le plus brutalement possible la réalité le plus près, lui, il y voit un décalage qui, à ce moment-là, est carrément un décalage temporel, spatio-temporel, quoi.
Oui, et puis je pense qu'il ne croit plus à ses outils pour parler du monde. C'est-à-dire qu'il a... Cet homme-là a décidé à un moment donné que l'art, en tout cas, n'était plus nécessaire. En tout cas, pas dans cette forme-là. Pas de faire du cinéma, pas de faire de la sculpture. Pas... Il disait à un moment donné... Alors, c'est pas dans le film, mais il disait... On n'est pas dans une époque pour faire de l'art, on est dans une époque pour résister et se révolter. Et c'est plus le moment de faire de l'art. Ce qui est à la fois très juste dans son parcours à lui et en même temps presque paradoxal, parce que pour moi il fait art dans son langage, dans sa parole, dans sa pensée en permanence, et c'est ça qui devient sa forme d'art.
Même dans sa manière de vivre en fait, mais je pense que quand il dit ça, c'est aussi comme une forme de provocation pour réinterroger les choses, quoi. Et je sais pas, moi cette programmation elle est venue, j'ai repris une phrase de Sioran, bon, qui est complètement sortie de son contexte, hein. Je ne sais même pas d'où ça vient. Si, d'ailleurs, je sais d'où ça vient d'un journal, d'un magazine avec des publications littéraires qui s'appelle le sous-titre, c'est donc cette reprise de Sioran qui dit « Dans tout citoyen d'aujourd'hui, j'y ai mes techs futurs ».
Revue Métech. On va faire une page de pub.
Voilà, page de pub pour la revue Métech, dont le slogan est « Advienne que pourrave ». Et en fait, ça rejoint un peu cette provocation de dire « Mais de toute façon, il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvance aujourd'hui ». Et ça, c'est peut-être une donnée qui est quand même un peu... qu'on peut interroger. Enfin, j'ai l'impression que Durkheim, à un moment donné, il parle de ça, quoi, et que cette phrase elle parle de ça aussi, et que en fait qu'on soit cinéaste ou maçon, on peut aussi se poser la même question de qu'est-ce qu'on fait, à quel moment et combien de temps on le fait et pourquoi, et voilà, qu'est-ce qu'on fait du chaos.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le combien de temps on le fait, parce qu'il dit aussi une chose que je trouve assez intéressante. À partir du moment où tu commences à maîtriser quelque chose, alors fais autre chose. Si tu es bon en musique, alors fais des maths. Si tu es bon en maths, alors va faire de la charpente. Aussi, quelque part, pour être contre la spécialisation qui serait enfermante et sclérosante. Là, on dérive un peu des films, mais...
Moi, je mettrais mon bémol, mais juste en donnant mon expérience de spectateur sur justement l'aller-retour que je disais entre les films de... Entre Alléluia et ensuite le film de Medvecki de Dvorka. La première fois, j'ai complètement oublié l'intitulé du programme. Donc je me suis retrouvée face au film en ne pensant pas du tout à la généalogie du personnage qui était sous mes yeux. Et de fait, il m'est apparu aussi, malgré certaines propositions intéressantes et alléchantes... ce que vous pouvez souligner, enfin, le côté génial, comme une pléiade de personnages qu'on peut rencontrer qui sont aussi lumineux qu'ils sont harassants, parce qu'ils nous assènent quelque chose qui finalement devient une lapalissade, comme il faut vivre là où nous sommes et cultivons 2-3 racines et renonçons à l'art. L'art, c'est l'art de vivre, oui, mais à ce moment-là, il y a quand même lui derrière
les sculptures qu'il a faites, un certain jeu, une certaine intelligence. Il y a Bernadette Lafont qui est sa fille. Il y a quand même une pléiade de personnages, une espèce de Grèce qui s'est recréée déjà avant, qui fait que... Voilà.
Sa femme.
Ça ?
Sa femme. Bon. Oui, Bernadette Lafont était sa femme.
C'est
ah
Paris.
Oui.
Ah
oui, j'ai fait un inceste.
Ah oui, c'est... Oui, oui, oui.
Voilà.
Bon, c'était sa femme.
Voilà. Mais donc, il y a tout ça derrière, quoi. Donc, c'est aussi un avant qui donne... Enfin, il y a un côté dialectique qui fait que là, il est là et qu'on peut le prendre comme ça. C'est pas non plus un renoncement, quoi. Enfin, comme lui, il dirait un renoncement à l'art, quoi.
Au monde. Un renoncement au monde. Et parce que... Dans cette programmation, la première chose qui m'a interpellé, il est vrai que c'était exigeant de demander à un public d'assister le premier soir à ce qui se tramait pour avoir une visibilité d'ensemble le soir suivant. C'est parce que dans la salle, on a remarqué qu'il y avait des gens qui ont assisté le 1er, le 31, la veille, et le 1er février, le lendemain soir. Et par contre, là, voilà, la question que pose la question d'habiter, qui a été le thème de choix pour faire un lien entre le film de Lotivol, La nuit éclaire la nuit, qui raconte l'histoire d'un troubadour vivant sur un banc, que les Toulousains appellent Bourrima parce qu'il a planté sa tente sur ce banc presque à vie et qui vit de grâce à l'inspiration du moment, je dirais, au milieu de cette place, au milieu de cette ville, au centre de cette ville, puisque cette place incarne un petit peu le centre de Toulouse. Et donc on est en face, tout au long du film, d'un personnage qui a planté sa vie au centre du monde, au centre de la place, au centre de sa ville, un choix. Alors que dans le film qu'on a vu le soir suivant, on est face à un personnage qui a fait... Un autre choix, c'est celui de vivre en dehors du monde. Il vit en dehors de tout, dans sa montagne, complètement isolé, les bras, les pieds, un peu mutilés, mais quand même, il survit grâce à ses dons, grâce à ses savoirs de cultiver la terre et des dons de la nature dont il nous fait une démonstration tout au long du film. La caméra, l'objectif de la caméra face à ces deux personnages ne peut pas nous faire oublier ce qu'il y a autour de ces personnages, que ce soit du premier qui a choisi d'être le centre du monde ou que ce soit Djorka qui, lui, il a choisi d'être hors du monde. C'est le territoire. Ce territoire, c'est la deuxième dimension du cinéma, ou plutôt ça, le complément de cette première dimension que nous apporte l'objectif et qui se transmet par les oreilles. Donc ce qu'on vit avec Bourrima au centre du monde, c'est la complexité du monde, justement. Parce qu'on reçoit tous les échos de la place, on reçoit tous les échos de ses copains qui arrivent et qui repartent, et on est, malgré que la caméra insiste à garder un face-à-face avec son personnage, de ne jamais lâcher ce personnage, et pourtant, au sang, on est tout le temps attiré par ce monde qu'il y a autour du personnage. Dans le second film, où on est avec Djorka dans sa petite cabane, c'est le personnage qui nous hante. Ça n'est plus le monde. c'est lui qui devient monde. Parce qu'on est soustrait justement de, du territoire. On est soustrait au sang. On n'a que des petits grincements. On n'a que la vie quotidienne, les gestes quotidiens. Donc, pour moi, c'est ça la différence. C'est 1 plus 1, ça ne fait pas 2. C'est ce que j'ai appris avec cette bande d'équipe qui s'appelle Numéro 0. Ça fait 3. Dans le cinéma, 1 plus 1, ça n'est pas une équation mathématique. C'est une équation qui donne à réfléchir à chaque instant où je suis. Qu'est-ce que je vois ? Mais qu'est-ce que je ressens ? Parce qu'on n'a pas qu'un sens. On en a 6. Avec une caméra et une micro, on a au moins 2 sens. Mais est-ce que pour autant, l'un plus l'autre, ça fait que 2, 3, 4?
Mais c'est, oui, c'est aussi les tentatives de programmation. C'est-à-dire que de la même manière que dans le montage, une image plus une autre image donne non pas... Ça ne fait pas 3 images à coller, mais ça, c'est dans le but... Enfin, on accole 2 images dans le but déjà d'en produire une troisième, quoi. Et c'est un peu aussi le but d'une programmation, c'est que dans la tête, ça crée quelque chose... Enfin, ça crée du sens en plus, mais c'est vrai que je n'avais pas vu toutes ces dimensions-là de partir du monde pour aller vers quelqu'un et à l'inverse.
Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que Borema, il est sur son banc et l'eau vient le rencontrer et les gens viennent autour de Borema pour lui raconter le monde, discuter du monde avec lui. Et dans Alléluia, c'est plutôt le cinéaste, ou en tout cas les gens qui vont voir Djorka, qui ensuite repartent et vont rencontrer le monde ailleurs. Parce que dans Alléluia, on n'est pas simplement accolé à Djorka. Djorka serait comme une espèce de centre d'une constellation, enfin, admettons en tout cas un endroit d'une constellation, et que de sa rencontre naît plein d'espèces de tentacules. Et à chaque fois qu'on va voir Djorka, ça amène une réponse ailleurs. Que ce soit à la ZAD, que ce soit dans des fêtes, que ce soit... Comment est-ce qu'à partir de ce personnage monde, ça crée des nouveaux mondes, d'autres. Et c'est quand même ça aussi que le film met en œuvre, j'ai l'impression. On n'est pas seulement collé à un personnage. Lui ferait monde pour aller voir d'autres mondes.
Oui, pour transcrire même les mondes, pour permettre de transcrire un certain nombre de mondes qui sont traversés, parce que, donc tu disais la ZAD, il y a ces images qui sont assez belles, qui sont mêlées du coup, et qui sont un peu en fractal. Il y a l'image de carnaval aussi, en feu, etc. Et c'est pareil, là, à un autre endroit, comment est-ce qu'on habite, enfin la beauté existe, mais comment est-ce qu'on habite le monde, tout ce qu'on traverse. Mais finalement, ça finit par se rejoindre, même si c'est 2 focales différentes, avec le film de l'eau, où c'est une histoire de rencontre, et qu'on ait juste ces histoires de rencontre. Il y a eu ce débat, moi je répondais à quelqu'un, moi je l'avais senti juste par rapport à la phrase qu'avait dit l'eau en exergue de Roland Barthes, et qu'effectivement, bah, il y a des frictions, etc. etc. On n'est pas nécessairement face à la question du reportage sur une personne qui nous intéresse bien moins en fait que le trajet qu'on fait. Comme dans une histoire amoureuse, avec des aspérités, des renvois, des... on se fait gercler, on s'énerve, etc. Il y a le film de Lou qui est génial là-dessus, sur la scène finale, où aussi on est renvoyé, où le cinéaste et le filmé se renvoient la balle, en fait, sur... Et on est ensemble en train de vivre un moment de monde qui, effectivement, se passe avec une caméra, et qui se passe avec une caméra parce qu'il se produit avec une caméra, mais qui plus se passe au spectateur avec la caméra. Et qui après fait que, justement, nous, après, dans la salle, moi, au-delà, du coup, à ces moments-là, quand les films arrivent à être ça, là, en dehors de vos collectifs, etc., il se produit réellement quelque chose comme je regarde le regard de mes amis, j'aime mes amis, et je peux discuter avec mes amis du monde. Et du coup, là, il y a vraiment un processus d'habitation. Ça, c'est ce qui renvoie la balle au bon sens, à mon avis, à la démarche même du collectif, quoi. Mais de ce que vous faites, quoi, de ce que vous produisez, quoi.
Ouais, je pense que dans ces... En tout cas, que ce soit Numéro Zéro ou la France entière, en tout cas, dans... Enfin, la manière de faire les films, il y a quelque chose de très fort qui est du côté de... C'est peut-être faire un film pour rencontrer l'autre, pour être mis en mouvement. Enfin, quelque chose comme ça, quoi.
Bah, pour être dans la vie, même telle que je l'ai senti. Mmh. Parce que...
Oui, pour... J'allais dire pour être dans la vie, ou même quelquefois, c'est souvent aussi des films de vie, c'est-à-dire que ça vient souvent avec une nécessité de soit d'habiter justement un endroit physique ou de sentir une accroche, une attirance impérieuse de se rapprocher de quelqu'un. Et on se retrouve presque avec un outil avec un outil qui nous sert juste à vivre, ouais, qui nous aide à vivre un petit peu, en fait. La caméra, l'idée de faire un film, ces maisons que peut-être on ne désire pas en tant que propriété physique, mais qu'on désire quand même investir des lieux où on peut mettre des choses de nous. Mmh. Et ouais, effectivement.
Ouais, des espèces de maisons oculaires, quoi. Mais, et ça résonne vachement avec la nuit éclaire la nuit, ou... Où en fait, à un moment, on se posait la question dans le débat qui suivait, la causerie, quoi, et de savoir si l'histoire avait vraiment une grande importance, enfin, l'histoire qui se produisait, qui était relatée, parce qu'il y a des relations avec son histoire, c'est le fils d'un roi, etc. Il y a sa présence, et il y a l'histoire de son village, des Tutsis, etc. Tout se mêle d'une façon qui, finalement, là, n'épuise absolument pas le sens historique en lui-même, puisque tout est disfracté, c'est à quoi je repensais hier. Et de la même façon que nous, l'histoire et la vie au présent se présentent à nous dans des aspects complètement disfractés qu'on essaye de rassembler. C'est ça aussi, habiter quelque part, essayer de rassembler, recoller les morceaux, bon an, mal an, parce que c'est vraiment pas un puzzle complet, et se déplacer, quoi, avec ça. Et effectivement, ce déplacement, si ces deux personnages y font écho, plus ou moins pour chacun, parce que bon, voilà, moi je dis, je m'en fais pas des mythes, même si je trouve que le personnage de La Nuit éclaire la nuit, Bourama, a effectivement, oui, il y a cet ascendant de son père roi et de quelque chose d'une royauté, d'une présence physique complètement évidente et dingue à la fois, mais. J'en ai suffisamment croisé sur les places publiques, j'ai suffisamment laissé le verbe aller pour savoir aussi à quel point, à un moment donné, ça peut être un malaise, parce que c'est des mondes, s'ils nous appellent à habiter, c'est aussi parce que c'est des mondes immenses et monopolistiques, quoi, enfin, qui vont prendre, quoi. C'est génial, mais parce que c'est à partir du moment où ça nous appelle à regarder, quoi. Mais ça nous renvoie toujours, effectivement, à une espèce de disjonction du réel qu'on essaye de relier, et qu'on relie par quoi ? Par des rencontres. Donc, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas de finalité quelque part, quoi. Il y a une espèce de trajet et de déplacement dans le monde, et une manière de se démerder avec ça. Enfin, bon, voilà.
Oui, c'est comme même presque des... C'est comme des occasions, quoi. Enfin, finalement, c'est... Oui, effectivement, c'est pas quelque chose dont on peut... toujours se saisir, à mon sens. Mais du coup, tu parlais de la petite causerie, et on a un extrait de cette causerie, parce qu'on a enregistré, et peut-être c'est le moment de passer ça, et voilà, ça donnera peut-être des échos. Ça dure
une quinzaine de minutes.
C'était
une espèce de tentative de débat autour de La Nuit éclaire la nuit.
Une causerie, mais bon, voilà. Du coup, il y a aussi quelques extraits. Enfin, voilà, on vous laisse avec ça, et on vous retrouve après.
C'est lui, qui vole, qui va nous accompagner, mais
c'est le planqué, là.
Il va être après, un peu caché pause, parmi vous.
On fait une pause entre les deux. Pause, hein, bouffe-t'en.
Disons que cette proposition, voilà, de Numéro Zéro et La France entière s'encadrait dans l'idée de habitat fragmentaire et fragmentation des histoires. Et à mon avis, c'est un peu aussi cette idée de le cinéma comme un lieu où aller, non, le cinéma comme un espace habitable. Vous allez voir donc ce film qui ferait partie des trois films qu'il a fait. En fait, il n'a fait que trois films dans les années 60. Ça, c'est 67. Il en a fait deux autres après. Il était comme une sorte de promesse, d'après ce que j'ai compris, une sorte de promesse du cinéma français à cette époque-là. C'est un hongrois, mais sculpteur aussi. On aura le réalisateur, monsieur Tivol, qui est là.
Mais on fait pas comme avant. On se disait que... Alors, je fais comme si le réalisateur n'était pas là. Il est là. Mais c'est peut-être parce que ça pourra peut-être nous permettre de parler peut-être autrement.
Ouais, voilà.
Voilà, on voulait voir comme ça, ça pourrait marcher.
Ah oui, on a oublié les gants de boxe. L'idée, c'était aussi qu'on allait amener des gants de boxe. On les a oubliés.
Mais bien que moi, je voulais bien faire le western, bien sûr.
Le western.
Mm-hmm. Tu vois, là, par rapport au western, pourquoi le western? Parce que c'était vraiment... c'est comme des films documentaires, entre guillemets. Pourquoi des films documentaires? Parce qu'ils essayent de relater, de revivre de toutes les possibilités possibles. L'époque de la naissance des Américains. Voilà, c'est une époque très violente. Il n'y a pas de cadeaux. Et voilà, ça, ils ont su bien démontrer ça aux gens.
Ça va moins
vite. Tu l'aimais,
c'est pas aimé tout de suite.
Pas au départ, tout de suite.
Bon, moi, je l'ai beaucoup aimé, mais je pense que tu l'aimes moins.
Pas au départ.
C'est normal, on peut pas passer pareil. On est pas sur le même banc.
Ça se voit.
Ça se voit.
Ça se voit. Vous êtes sur le banc tous les deux, quand même. Hein.
Non, mais est-ce que. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont été là hier soir.
Oui.
Mais combien on est. Pas nombre. Ah, si, quand même. Parce que c'est le personnage du film, du long métrage documentaire qui est projeté hier soir. C'est le
celui
réalisateur
qui va
du film.
On parlait de
oui, c'est le troisième sur le banc.
On ne va pas chercher la généalogie du film de Lolo. Comme ça. Ouais.
Ça ne fait pas avancer.
Là-bas.
C'est pire, c'est dur à suivre.
Ah, décidez-vous alors.
Non, moi j'avais une question par exemple. Moi j'avais une question très précise par rapport à ces recherches.
recherche universitaire sur l'environnement. Ouais. Moi, j'ai cherché un peu donc, sa thèse sur Internet. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas de trace de ses recherches. Tandis que là, on dirait que tu dis que tu as soutenu une thèse, enfin, on dirait que voilà, la thèse existe. Ça n'existe pas en fait.
Mais non plus, je réponds pas.
Oui, mais qui c'est qui va lire ? Qui c'est qui va lire ? Qui c'est qui va lire ?
Internet, c'est pas Dieu.
Non, mais d'arrêt, je ne l'arrête pas à répondre. On s'en fout surtout.
Non, mais.
Non, c'est pas, on s'en fout. T'as raison de pas répondre.
Enfin, moi, ça, c'est une autre question. Ton film serait en complément au film de Liane de la Tour, d'abord.
Ouais.
Pourrait-il aussi se montrer avec Liane de la Tour, avec le film de Liane de la Tour, les temps de pouvoir ? Et les recherches de Bourayma pourraient-ils aussi donc faire partie de ce tour, enfin,
pour moi, c'était vachement important de. Il parle que bah, c'est une recherche sur la souveraineté de l'État, machin. De l'État, et il raconte en fait comment la colonisation pour lui a pris forme. Et c'est, pour moi, c'est vachement important parce que c'est au moment où on est tous les deux là, l'un à côté de l'autre. Puis là, je sais pas si je me gratte le nez ou si je tourne les cheveux.
Ouais, tu tournes les cheveux.
Je tourne les cheveux, là. On est tous les deux l'un à côté de l'autre. Et à ce moment-là, il raconte en fait qu'il dit bah, tu vois, ils sont venus, patata, ils se sont fait amis.
Ils ont dragué les chefs.
Voilà, voilà, ils se sont fait amis.
C'est juste avant que j'avais oublié. Ouais. Après, la suite,
c'est violente. C'est important parce que moi, je me suis toujours posé la question de quand je faisais ce film, de à quel endroit mon amitié était sincère. Et à quel endroit, qu'est-ce qu'une amitié ?
Pourquoi alors ? Pourquoi tu t'es posé cette question ? Pourquoi l'amitié ?
Bah parce qu'il me raconte ça, quoi. Il me dit, ah bah tiens, ils sont venus, ils se sont fait amis, et puis ils nous ont colonisés. Alors moi je suis là, je viens le voir, je lui dis, bah tiens, j'ai envie d'être ton ami.
Quelque part, ils sont des colonisateurs.
Je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est quoi ?
Tu veux dire, non, mais non, c'est pas intéressant, tu poses la question de, est-ce que tu t'es lié pour faire un film ou est-ce que tu as fait un film pour te lier, c'est ça, c'est ça.
Puis ouais, puis au-delà de la question, c'est-à-dire comment qu'est-ce qu'une amitié, quoi, donc, comment une amitié est chargée de... Voilà, c'est ce qu'une amitié, c'est toujours sincère, mais finalement, dans une amitié, c'est comme dans l'amour, t'as toujours un intérêt, donc à quel endroit l'intérêt...
On est impur, non ?
C'est justement...
Ouais,
on est impur, pas...
Ça m'intéresse que tu répondes, en fait, à la question que madame a posée au début.
Dis pas rien, c'est que je l'ai pas fait.
Je suis vraiment désolé, mais elle t'a demandé qu'est-ce qui était les motivations pour faire ce film.
Ça, c'est la première chose. Et après, mais il n'y a pas eu vraiment de motivation, parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est... On se rencontre à la fac, lui il est tout seul, moi je suis en reprise d'études, je suis tout seul. On est tous les deux dans une solitude abyssale au milieu d'universitaires. Et puis on passe 6 mois ensemble, on va l'un chez l'autre, on parle de la vie. Et puis après on se perd de vue en 2004 pendant 3 ans. Et puis moi je reviens à Toulouse où là j'ai une révélation sur le cinéma. Donc je passe du cinéma, donc je réussis à m'inscrire à l'école de cinéma. J'investis tout ce que j'ai comme argent pour m'équiper, pour faire du cinéma. Et puis les codes de cinéma, bah, ça marche pas. Je suis trop... Ça, je sais pas, j'ai 35 ans, ils ont 23 ans. Non, c'est pas... Non, mais c'est... Et donc ça marche pas. Voilà, donc ça marche pas. J'arrive pas à me faire de copains.
C'est une chiante, l'école, non ?
Voilà, donc je suis
un
peu et je me promène dans Toulouse avec ma caméra. Et là,
parce qu'on a un film à voir quand même.
Je tombe sur lui qui est assis sur son banc, quoi. Et moi, je m'assois à côté de lui avec ma caméra et puis on se reconnaît. Et puis je n'ai pas l'intention forcément de faire un film. Je suis là, je m'assois, je sais pas. Ouais.
Moi, ça me dérange la question des motivations pour faire un film dans le sens où on peut donner ses impressions sur un truc qu'on vient de voir. Et je sais pas, je trouve ça toujours pénible de savoir pourquoi. Enfin, en fait, je trouverais ça plus intéressant que les personnes qui posent la question de savoir c'était quoi les motivations, qui nous racontent ce qu'ils ont vu peut-être ou quelle impression ça leur a causé. Mais en fait, ou si vous avez pas aimé le film, dire pourquoi.
Je fais un petit exercice de gymnastique parce que c'est tendu. Hein.
Combien d'années voilà, ça c'est une question importante.
Voilà.
Non, mais attends, c'est moi qui réponds.
Tu me le ramènes, moi.
C'est quoi ta question ?
L'accompagnement.
De qui ?
L'accompagnement dans ce film. Dans cette durée-là d'accompagnement, on sent dans ce film, en fait, les traits physiques de la personne. Enfin, on sent
non seulement l'émotionnel, mais on voit dans le physique en fait que le temps y passe. En fait.
Ouais.
Et il n'y a pas de jugement en mieux ou en mal à avoir, je pense. Mais elle dit quelque chose, cette notion du temps, elle dit quelque chose. Et le fait de prendre un quotidien, c'est comme s'il y a un quotidien que tout le monde voit et un quotidien que tout le monde ne voit pas. Et à travers ce film, en fait, tu rends visible l'invisible. Et personnellement, ben, je côtoie ce visible et invisible. Et je pense qu'on le côtoie tous d'une certaine manière, mais de le voir comme un spectateur, en fait, assis sur une chaise, bah, ça coupe le souffle, en fait. Qu'on est en interaction, c'est différent que quand tu te poses sur cette chaise et que tu regardes. Et bah merci pour ça, parce que ça me fait juste prendre conscience en fait que les besoins primaires en fait sont pas satisfaits, que tout le monde n'a pas accès à ses besoins primaires. Et comme tu le dis, je sais pas pourquoi il a eu, pas eu, est-ce que c'est au niveau légal ou pas légal, pourquoi il a pas eu sa thèse ou pas, enfin peut-être, peu importe la réponse, mais en fait, merci de rendre ça d'une manière en fait où on peut se rendre compte en dehors en fait de s'asseoir et de regarder. Et je trouve que c'est impactant, sachant que tous les jours c'est le quotidien de certaines personnes qui sont touchées au premier degré ou au second degré ou au cinquantième degré. On est tous concernés.
À Bourema, je lui ai demandé à un moment, je lui ai dit, ah, tiens, ça serait bien que... Ben, ça me ferait plaisir qu'on organise une projection ensemble du film ben, où on pourrait, à Toulouse ou ailleurs. Quoi. Puis il m'a dit, ah ben non, moi j'en ai rien à foutre, c'est ton problème.
Mais
tu as parlé de Roland Barthes, du coup. Et moi, ça me faisait marrer parce que je me dis, ouais, c'est vraiment la rencontre. Et en plus, toute l'histoire de Roland Barthes, tu sais, dont tu tires la nuit, enfin, la nuit éclaire la nuit, c'est l'histoire de la rencontre, de son échec et des errements, quoi, comme ça, quoi. Donc moi, je le voyais plus à partir de là et à partir d'après ce que fait toute rencontre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement où ça nous mène.
Ouais.
On y est, des moments avec le malaise, des moments avec le bonheur et l'entrain, et puis, bon, bah, il se déroule à ce moment-là une pensée, quoi. Ouais. Et ça connecte ou pas, effectivement, avec les mal-être fous, enfin, moi, c'est plus comme ça que je l'ai senti, quoi, mais...
Bah si, non, mais c'est vrai, parce que moi, quand je regarde le film, c'est plusieurs fois que je le vois, des fois, à la fin du film, je suis triste, et puis des fois, à la fin du film, je suis heureux. Et en fait, chaque fois, je me demande si... Bah, des fois, je suis triste, parce qu'on se dit, on ne s'est pas rencontré comme j'aurais aimé, et puis heureux...
Parce qu'il s'est produit ça. Enfin, mais ouais. De la même façon, quand on pense nos histoires, nos affaires, ouais. Sentimentales...
Vous, elle est encore...
Bah oui, on se connaît depuis 2003. Bah on se voit, après c'est...
15 ans.
Je sais pas si on peut dire on se voit, parce que moi je... C'est toujours moi qui vais le voir. Donc c'est... on se voit, mais c'est on se voit qui...
Lui il est fixe. Toi t'es mouvant.
Comme son père sur sa chaise quoi, il est sur son banc quoi.
Voilà.
Il est vraiment...
Donc moi je sois là.
Vissé quoi.
Ouais.
Et... Moi, c'est ce que je t'ai dit. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne question, celle de la souveraineté et celle de triste ou pas triste. Je trouve que c'est ça les questions du film. Moi, je sens une énorme douleur, mais toi, tu m'as répondu par la souveraineté. Non, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, non?
Oui, parce que toi, quand tu disais que tu voyais une énorme douleur, c'est que tu voyais sa douleur.
Ouais.
Mais ça dépend, parce que le rapport à la douleur, moi je trouve qu'il est, il est ambigu, parce que tu vois, quand il dit...
Voilà, un petit bout du montage du débat qu'il y a eu après le film. Et moi, en écoutant ça, puis en écoutant ce qu'on disait tout à l'heure, ça me faisait poser la question de la démarche des deux cinéastes, de Jean-Baptiste et puis ma démarche, dans le sens d'aller voir ces personnes que sont Bourema et Diorca et qu'on se pose la question de l'habiter, quoi, ça me, je me demandais qu'est-ce qu'on cherchait là-dedans par rapport à nous dans nos questions d'habiter, quoi. Et est-ce que ça renvoie à la question de ce que tu disais, Julie ? Est-ce que oui, est-ce qu'on fait des films parce qu'on ne sait pas très bien comment habiter le monde et on se dit qu'en faisant des films, ça nous aide à l'habiter ? Bon, c'est une question que je me pose, mais c'est quand même si ces deux personnages sont très différents, il y a quand même quelque chose qu'on vient chercher, essayer de trouver des réponses à des choses, quoi. Je ne sais pas si on les trouve, les réponses, mais en tout cas, on a une démarche commune là-dedans. D'aller chercher une parole de... Parce que même si c'est pas forcément ça qu'on donne à voir dans le film, c'est plus complexe, mais on a une admiration quand même, une fascination pour ces deux messieurs, quoi. Et qu'il y a quelque chose qui sont... C'est comme des pères et des pères, quoi.
Des frères.
Ouais, je sais pas si c'est des frères. Je pense que frères, ça, on les aurait pas filmés comme ça.
Mais en fait, je me demande si dans la... Quand tu dis... on va les voir parce qu'on cherche... à comment habiter le monde et aussi faire des films pour se demander comment habiter le monde, c'est déjà en étant en train de l'habiter. Alors c'est une manière de l'habiter, c'est en mouvement, mais de toute manière c'est déjà en train de l'habiter. Et toi tu parleras mieux de La Nuit éclaire la nuit, mais pour Alléluia par exemple, dans sa forme qui est très fragmentaire, pour reprendre un petit bout du titre de la programmation, je pense que la manière dont Jean-Baptiste habitait le monde à ce moment-là, c'était un monde sur la route. Et d'ailleurs, il y a un des premiers cartons du film qui dit « Nous étions sur la route ». Et c'est un film qui est en mouvement et qui va de route en route avec peut-être comme point de repère Diorca, qu'on va voir régulièrement et qu'on quitte pour continuer à être sur la route. Et c'était la manière d'habiter le monde du réalisateur à ce moment-là, enfin de Jean-Baptiste.
Ouais. Mais on a besoin de ce repère.
Mais on a besoin de ce repère, oui.
On a besoin d'un repère, quoi. Que ce soit le Bourema ou Diorca, il y a besoin de ce repère. Et ce repère, ce qui nous attire, c'est aussi la puissance de sa fixité.
Bien sûr.
De comment lui, finalement, il est là. Il est au présent et que la question d'être en mouvement ou d'être ailleurs ou tout ça ne l'habite pas, puisqu'il est habité là où il est, il l'habite, quoi. Et que moi ça me renvoie à la question de voilà, quoi. C'est, je pense qu'il y avait, il y a ça qui est en dialogue ou en choc de comment on habite notre présent.
Mais en fait moi ça me fait penser ce que tu dis à la multiplicité en fait des regards qui peut s'opérer dans ces films en fait, et le jeu que toi tu poses très clairement dans La Nuit éclaire la nuit en fait, qui détrône un peu un cinéma de l'identification tout le temps et qui ramène un peu qu'est-ce que c'est que la subjectivation, qu'est-ce que c'est d'être subjectif, de se poser aussi en personne pensante. Et c'est... Alors évidemment, on ne fait pas un cinéma que contre le cinéma dominant. C'est notre cinéma, on s'en fout qu'il y en ait plein d'autres d'ailleurs qui existent. Mais c'est quand même aussi ça, c'est un cinéma qui ne se fait pas... Tu parles de fascination, mais pour autant, dans les formes qui...
Qui n'est pas l'identification pour moi, la fascination.
Ouais, mais parce que je me rapproche du cinéma en fait, parce que toi tu parles de ta démarche, mais que moi je parle plus d'une place de spectatrice, et que qu'est-ce qui m'arrive quand je regarde toi et Bourema, et que je sais pas si je suis en train de m'identifier à l'un ou l'autre, et que est-ce que enfin comment tout ça me travaille à ce moment-là.
Oui, je parlais pas en soi des films, c'est clair, je parlais juste de notre démarche d'aller par accident, par mouvement, d'aller à la rencontre de ces personnages. C'était plus à cet endroit-là que j'essayais de me poser la question, puisque moi-même, je ne l'ai pas forcément, cette réponse, mais je pense qu'il y a un endroit, c'était la question de trouver un phare, quoi, ou une encre.
Bon, en tout cas, il y a une présence dans les deux personnages qui est vraiment ardente. Enfin, je veux dire, il y a le plan que toi, tu fais avec Bourema, où il marche dans ce jardin, où, je ne sais pas, enfin, ça devient une jungle, où il est comme une espèce de lion ou droit. Il y a un auquel, même s'il faut, c'est toujours abusif de faire trop de liens, répond dans le film d'Alléluia, la superposition à un moment du visage de, je ne sais pas si c'est Janus ou Agamemnon, au visage de Medvecki. Et effectivement, c'est en tout cas de toute façon des présences qui deviennent des espèces de totalités, quoi, et qui sont des points d'ancrage. La question à ce moment-là de la fascination, elle n'est pas, je ne sais pas si c'est pas ça que tu voulais renvoyer, Caro, quoi. Elle n'est pas une question de zoom un peu pervers sur quelque chose qui deviendrait une espèce d'éclairage du misérabilisme avec un œil gentillesse. C'est là de nouveau encore une histoire de rencontre et puis de, ouais, mais c'est quelque chose comme un pendule autour duquel tournent des routes. Enfin, moi, tel que je l'ai senti, toi, dans ta démarche, comme là, dans, en plus, ce que tu éclaires, Julie, en disant que c'est un moment de route, que le moment du tournage d'Alléluia, quoi.
Ouais, c'est un moment d'errance, et il n'y avait pas d'habitat, au sens strict quoi. Ouais.
On le sent.
Il y avait une volonté d'habiter des espaces, de les chercher, mais pas d'habitat au sens strict.
Il y a une déshérence et une errance, enfin, sans faire des espèces de jeux de mots à la con, mais il y a quand même quelque chose comme ça, enfin, et d'assez envoûtant et triste, parce que c'est pas non plus super gay, quoi. C'est pas l'endroit où on revient comme je sais pas, un espèce de chez-soi de Noël, quoi. Non, c'est une espèce d'Ithaque, mais en elle-même, dans un endroit marginal déjà concrètement, et en plus, toujours en déplacement, quoi.
Peut-être que, enfin, oui, ouais, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans de ces films qui parlent de ça, de se faire un autre endroit, bien que peut-être il soit justement toujours précaire, que en fait, à la fois Diorca et à la fois Bourema, c'est, même si on sait où les trouver quand on a envie d'aller les voir, il y a toujours cette inquiétude de savoir s'ils y seront toujours. Et que, ben justement, ça différencie un peu de ce que tu nommes comme d'abord je sais pas, et puis peut-être ça serait un endroit de Noël, mais en tout cas, là c'est aussi un autre lieu, un tiers lieu pour le. Enfin,
peut-être. Ouais, puis un lieu d'un être qui rejette, quoi. Parce qu'il y a la scène dans La nuit éclaire la nuit où Bourema balargue une radio qui finit par plus marcher et qui donne les informations du monde. Mais au bout d'un moment, ça ne marche pas et on la balargue. Et donc, c'est aussi un lieu d'attache à quelque chose qui est un rejet. Un rejet et à la fois, pourtant, une espèce de présence qui part un ensemble, un enchevêtrement de choses qui sont peut-être des décisions, mais aussi probablement des défaites, etc. C'est pour ça que ce que disait la Lénette ne marchait pas forcément, de dire que c'est de la douleur, parce que c'est un ensemble complètement une espèce de bois constrictor de partie de vie qui fait qu'à un moment donné, le type se retrouve là et qu'il est à la fois une présence complètement mythologique parce qu'on n'en est plus dans la civilisation quelque part. Il marche dans la ville avec les magasins. Finalement, à un moment, on le voit s'allonger pour s'abreuver comme pratiquement un lion dans une lagune ou Medvecki en train de s'asseoir avec ses feuilles. Et l'histoire, c'est à ce moment-là même pas de dire que c'est un idéal de vie, c'est juste un espèce de point mythologique, mythique, mais qui est parfaitement présent, parfaitement concret, granuleux, et là, quoi. Enfin, moi, tel que je l'ai ressenti.
Mais ça rejoint un peu ce que disait Lowe à un moment donné dans le débat là, qu'on a pu entendre, où il parlait de souveraineté, et je pense que l'un comme l'autre, ils sont un endroit de souveraineté presque absolue, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je porte ce regard-là, et qui est très lié à que ce soit l'un comme l'autre, et peu importe l'endroit où ils sont concrètement, qui sont des endroits hyper lumineux. Enfin, pour moi, c'est plutôt des êtres hyper lumineux, qui m'amènent vers ça, quoi. Enfin, quelque chose de... Ça m'ouvre les yeux très fort, quoi.
C'est vrai que l'un et l'autre, c'est... invite à une forme de fascination, enfin presque envoûtante, presque on est envoûté par le personnage, que ce soit dans le film de Bourema, soit avec quand on est avec Diorca, en dehors de tout. Et la démarche, c'est la même. Moi, je pense que c'est des quêtes de personnes. c'est de vraies personnes. Ils ont fait des choix très durs dans, et très déterminés. La preuve, c'est que ils vivent, comme essaye de le dire Lolo, et que ça reste un terme incompris, avec souveraineté. Et c'est pas évident de vivre pour un SDF, de vivre en ville, cette souveraineté que vit, qu'on voit Bourguema, que nous révèle Bourguema. En dehors de ce fanatisme, de cette fascination qu'on peut avoir en voyant le film une fois, quand on regarde de près, quand on a pris le temps de regarder et de faire une topologie des personnages qu'on a en face de nous, je dirais que on trouve quand même un fond. Ces deux météores, l'un qui a choisi d'atterrir en plein centre du monde et l'autre qui a choisi une montagne en dehors du monde. L'un, il est devenu guérisseur. C'est ce que nous révèle le film de La nuit éclaire, la nuit de Laurence Duvol, puisque ce personnage, quelle que soit la main qui se tend à lui ou la demande de conseil, on voit la nénette qui vient lui demander conseil après une rupture conjugale, il ne profite pas de l'occasion à ce moment-là pour la rassurer, il lui dit « patience, patience ». Ça va venir. Et on retrouve dans les images d'archives, puisque le film nous invite à faire une corrélation entre le réel et un autre réel qui est son père incarné, qui était aussi un conseiller du village. C'est un roi guérisseur. On peut dire ça, c'était sa fonction. On retrouve cette fonction chez le fils qui est SDF sur la place publique. On retrouve chez l'autre personnage Jorka quelque chose du cultivateur, l'agronome, de quelqu'un qui nous apprend à faire face à l'après nucléaire. C'est-à-dire que, carrément, il nous invite à sortir presque tous de cette caserne, de ce landau, de ce berceau et ce tombeau de l'humanité que c'est la ville. La ville, en même temps, elle nous ouvre à la civilité, au civilisme, plein de choses. Mais en même temps, s'il arrive une moindre catastrophe naturelle, personne n'en sortira. On est tous condamnés. Alors que peut-être échapperont ces gens qui ont fait ce choix de sortir de ce monde,
moi,
de se préparer déjà.
Je ne suis pas là-dessus, mais...
Ouais, voilà, donc voilà, moi c'est ça ce que je voulais juste dire. Il y a un fond, quand même, il y a un fond dans ces deux personnages, hein, le guérisseur et le cultivateur.
Je ne sais pas, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres mises en exergue, mais j'ai un ami aussi dans les montagnes, et qui exerce une forme de solitude et de fascination, et qui lui, au contraire, passerait complètement par les lettres et par quelque chose qui semblerait à ce moment-là complètement contradictoire avec des modèles de marginalité, entre guillemets, qu'on voit là. Et finalement, ce qui exerce cette fascination, c'est plutôt la plénitude que la personne, que l'être a fini par avoir avec lui-même, et la façon dont il a de faire monde avec son monde. Et contre vents et marées, et chacun dans des difficultés qui sont effectivement diverses, mais des altitudes de l'être, des extrémités de soi, où la raison subsiste malgré quelque chose de complètement déraisonnable dans la façon de le vivre. Et là, à ce moment-là, dans cet extrême, nous-mêmes, là je veux dire, dans cette question d'habiter le monde, on n'est pas dans l'histoire d'une espèce d'un renouveau d'une communauté qu'on pourrait créer, mais de comment est-ce qu'on arrive à faire corps avec nous-mêmes pour rester entier dans un endroit qui est, si on suit le parcours de Bourguema, je veux dire, grévé d'une putain de masse d'horreur, comme quand la radio tourne et qu'on est en train de parler de liposuction de fesses ou de je ne sais quoi, et d'une clinique, de guerre, de machin, que dans un autre cas, on est là-bas. Parce qu'en même temps, on est face à des discours aussi qui, à des moments, sont absurdes. je veux dire, dans le cas de Bourema, comme dans le cas de Medvecki. Je veux dire, quand Medvecki commence à dire les poissons sont les éboueurs, il ne faut pas manger les poissons, on est pratiquement dans des lapalissades qui ont été prononcées depuis les années 70 et qui sont reprononcées par des fous qu'on connaît des milliards de fois. Mais ce n'est pas ça qui exerce la fascination, c'est la façon d'être absolument à soi et qui effectivement nous échappe. Et nous, à des moments où on est dans des errances semblables, enfin, telles que moi je le sens, enfin. Et comment maintenir notre poésie? Et là, c'est habiter ce monde. C'est pas est-ce qu'on va construire une cabane ici ou là, à la ZAD, ou faire un carnaval. Même si ça tourne autour de ces choses-là, ça ne s'y réduit pas, en fait.
Mais bien sûr que non. Effectivement, la question, c'est ce que tu dis, c'est la recherche de poésie. Inévitablement. Et après, peu importe où ça se matérialise, c'est...
Oui, ou ça se matérialise pas d'ailleurs, c'est la recherche, je pense, c'est des fuites. En fait, moi, ça me faisait penser que par rapport à quelque chose de très pragmatique auquel tu reviens, Waïbe, de ce monde post, que la catastrophe est imminente de partout et que le paroxysme nous habite et que comment on s'en sort de ça. Et après, ce que je peux trouver intéressant aussi qui rejoint, enfin je sais pas comment ça les rejoint, je trouve qu'ils ont une manière différente aussi de fuir et que ça peut être par la terre et que, enfin je sais pas, ça rejoint aussi en fait le sol et la lune, quoi, enfin qu'il y a ce truc de se barrer par la pensée et de à un moment donné devenir tellement familier avec la folie que peu importe la catastrophe, puisque l'esprit est ailleurs et qu'en même temps, pour Durkheim, il y a une résistance qui est de planter un radis, mais qui est aussi vaine, quelque part. Mais peut-être qu'on peut réécouter un petit coup Durkheim, si jamais il y a des gens qui écoutent, qui n'auraient pas vu les films et qui les verraient après, et que voilà, il y a un petit
texte. Alors, on va écouter un petit bout de Durkheim, on arrive vers la fin de l'émission, et après... On parlera de la prochaine programmation de numéro 0. Excusez-nous, là, je... Ouais, mais c'est pas numéroté, le numéro que tu voulais que j'envoie. C'est pas écrit Durkheim Maison ? Voilà, excusez-nous. C'est parti.
Je vois très bien une société. Les gens font leur madonnette pour dormir comme ils veulent, comme ils veulent. Où il veut. Et puis, pour déjeuner, il y a une construction collective, hein, les gens mangent, qu'ils ont l'argent ou pas, pas d'importance, tout le monde peut manger. Et puis après, chacun retourne dans son jardin pour travailler quelques heures. 2-3 heures par jour de travail, c'est l'argent suffisant. Et puis, tu peux aller partout, de chez toi, partout. Alors ça, c'est offrir au monde la plus immense jardin que l'homme n'a jamais eu sur toute la planète. Chacun a toute la planète.
Nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres et des curés.
Il fait 70 000.
Voilà, c'était la parole de Durkheim dans le film Alléluia de Jean-Baptiste Alazard, monté par Julie Borne. Maintenant, on passe à la...
Eh bien, en fait, on n'a pas... Alors, moi, j'ai pas trop... Ah, il y a de l'écho.
Ouais, mais ton micro est prêt. Il y a du Larsen, fais attention.
Avec toi.
Non, c'est l'autre micro. Voilà, c'est bon, là ?
Oui. Non, c'est juste que moi, j'ai pas trop écouté ce qu'il racontait à Diorca. Je me rappelle plus. C'était...
On habitait partout. Partout, on était chez nous.
Chacun aura des cabanes. Et tu seras chez toi partout. Mais de toute façon, on allait peut-être poursuivre... plus ou moins clôturer la discussion autour de cette programmation passée.
Voilà, bah peut-être avec la question de savoir où numéro préexiste, coexiste. Alors il y a cette question un peu dans... Une question, c'est... Je sais pas pourquoi il y a de l'écho comme ça.
Oui, il continue, il y a de l'écho. C'est vrai qu'il y a une forme d'écho.
Ouais, mais je peux rien faire. Okay. Le micro vert est baissé. Voilà, désolé pour l'écho, écho.
C'est Borema et Djorka qui sont parmi la technique.
Voilà, ou peut-être Alger. Donc la prochaine programmation de numéro 0 à Vidéodrome 2, ça aura lieu le 21 et 22 mars. Ah voilà, ça y est, ça va mieux je crois. Et cette programmation elle va s'articuler autour de plusieurs films qui ont pour point commun peut-être de parler d'amour. Et même de faire l'hypothèse que l'Algérie serait en train d'être et de devenir ce qu'elle est à partir d'une overdose d'amour qu'aurait connu Alger en 1969. 1969, c'est l'année où a lieu le festival panafricain. Ben, c'est un grand rassemblement et politique et artistique. Et je crois que la culture, à ce moment-là, s'en mêle pas trop. Et malheureusement, ben, 50 ans plus tard, en 2009, il y a le même événement qui est réintroduit dans la ville d'Alger. À ce moment-là, je pense que c'est un événement uniquement culturel, mais on a des amis cinéastes qui sont par là à ce moment-là. Il y a deux films qui sont réalisés. Il y en a un qui s'appelle I'm Too Sexy for My Body, qui est un film de François Souprenant. Et un autre film qui s'appelle Afrique Hotel, de Nabil Dejouani et Hassan Ferrani. Et donc ces personnes, en fait, filment tout sauf le festival panafricain. Donc ça sera le premier soir, le 21 mars. Et le 22 mars, bah, ça sera une suite. Il y aura un autre film de François Souprenant et un film aussi de Gilani Sadi, qui est un cinéaste tunisien. Et voilà, en gros, à peu près les films de cette programmation. On va vous passer un petit extrait du film de François, qui s'appelle, du coup, du deuxième film, enfin, du film qui s'approche, c'est le deuxième soir, qui s'appelle Reviens et prends-moi. Ou peut-être je peux vous lire un peu trois trucs. Je vais vous lire un petit extrait de ce dont elle parle dans ce film, qui est un film qui n'est pas du tout bavard en fait, mais elle peut, j'espère qu'elle sera là, elle pourra en parler. Mais en tout cas, elle dit, le poème dit « Reviens souvent et prends-moi, sensation bien-aimée. Il y a quelque chose qui a disparu et qui pourtant est présent. C'est du passé présent. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans ces deux villes de Syrie. » Je ne sais pas de quelle ville elle parle en Syrie. « Contrairement à l'Occident, où l'on est obsédé par l'actuel, où il n'y a que du présent, en Orient, l'histoire et le passé sont toujours présents. Et puis le choix du poème, c'est aussi parce que le film était une déclaration d'amour à quelqu'un. J'ai essayé de faire quelque chose où le désir soit tangible, où on l'éprouve. Pas le désir d'une seule personne, un désir qui n'est pas fixé sur un seul objet, mais qui vous envahit et qui vous prend. » Elle dit autre chose qui est très beau sur ce film, « Reviens et prends-moi ». Elle dit que c'est, je crois, un film... c'est un poème d'amour sans amoureux. Juste on envoie l'extrait et puis.
Amen.
Reviens et prends-moi. Reviens souvent et prends-moi, sensation bien-aimée. Reviens et prends-moi, quand la mémoire du corps se réveille, quand un ancien désir passe à travers le sang, quand les lèvres et la peau se souviennent et que les mains touchent de nouveau. Reviens souvent et prends-moi la nuit, à l'heure où les lèvres et la peau se souviennent.
Ça, c'est la suite, c'est le morceau pour finir, mais on n'a pas tout à fait fini. Juste aussi vous raconter qu'en fait, cette programmation, peut-être, il y aurait l'idée aussi de faire vivre un peu une théorie de... Alors peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais en tout cas, j'ai bien voulu la comprendre comme j'ai envie de la comprendre, d'un écrivain qui s'appelle Gunther Anders et qui écrit un livre à un moment donné de toute sa longue vie d'écrivain et qui parle de l'amour. Enfin, son livre, il s'appelle Aimer hier. Et il raconte quelque chose du monde actuel dans lequel on vit, où il dit que toutes les avancées technologiques ont été tellement vite que nous, humains, on ne sait pas suivre toute cette rapidité-là. En tout cas, il raconte que notre volume de sentiments est trop étroit pour arriver à capter tout ce qui se passe dans le monde et que voilà, il s'interroge là-dessus et il dit « La tâche des historiens de demain, s'il en existe encore, sera d'écrire l'histoire comme une histoire des sentiments. » Sous-entendu que l'histoire n'a jamais été faite de cette manière-là. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît d'investir comme champ. Enfin, je me dis, ah ouais, tiens, c'est une bonne idée. Voilà, si quelqu'un...
C'est une bonne chose pour les cinéastes. Et c'est une chose que n'assumera pas jusqu'à la fin Gunther Anders, parce que à la fin, il écrit quand même « Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse ?»
Non, ça, c'est pas du tout Anders, c'est Stieg Dackermann.
Non, ça c'est notre besoin de consolation.
Ouais, ouais, c'est Anders, tu confonds.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est son dernier bouquin.
C'est bien Gunther Anders, pardon.
Mais c'est un texte qui est publié en collusion avec un texte qu'il écrit quand il est en exil aux États-Unis, et pas du tout de la même façon qu'Adorno. C'est-à-dire que lui, il va se retrouver en plus à travailler dans les bas-fonds d'Hollywood pour nettoyer les costumes des péplums, etc. Donc il se pose la question, c'est... Parmi les premiers moments où il va se poser la question aussi de ses sentiments, même si c'est qu'il s'est fait larguer par Anna Arendt d'une façon complètement odieuse, ce qui joue aussi sur sa façon de se poser cette question-là, et de répondre à Arendt sur la question plus large de l'oppression, etc., par la question exacte de comment est-ce qu'on est des hommes, quoi, et comment est-ce qu'on reste des hommes dans l'horreur. Mais... Parce que il faut faire attention, parce que ça marche pour des cinéastes et des poètes, cette proposition d'Anders, ça marche beaucoup moins depuis que la sociologie essaie de le faire, parce qu'il y a Corbin, etc. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire l'histoire des sentiments, et ça se passe très très mal. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très peu de sensibilité, donc pour faire l'histoire des sentiments, il faut peut-être commencer par en avoir.
La sociologie ne peut pas vraiment faire cet endroit-là, enfin, a priori.
Il y a un texte qui est assez beau, qui a été publié par l'EDN, qui n'est pas un texte, justement.
Par l'encyclopédie des nuisances.
Donc l'encyclopédie des nuisances, et qui est en réponse peut-être à la tentative d'Anders, qui est allemand, de Walter Benjamin, et qui est un échec quelque part éditorial, mais qui est une tentative de mettre en rapport des lettres d'amour écrites sous le Troisième Reich, avec des lettres d'amitié, des correspondances, en fait, avec des faits et des actualités. Et donc, comment se constitue en fait une histoire en rapport et en relation avec nos amours et nos arrachements, quoi. pour répondre à ce que tu disais, quoi. Mais en tant qu'historiographie telle quelle, je pense que Anders l'a désiré, et justement, enfin l'a senti, quoi, mais il l'a jamais imaginé
possible,
comme une méthodologie, quoi, en tout cas. Et mais c'est peut-être ça qui est génial, quoi. Enfin, c'est l'échec du truc à l'avance, quoi.
De faire l'histoire des sentiments.
Ouais.
Enfin, de faire l'histoire par.
Ouais, on fait l'histoire de l'économie, on fait l'histoire de la guerre. L'histoire a toujours été une histoire de guerre. De guerre et de paix provisoire. Les économistes aujourd'hui sont au point mort par rapport au produit intérieur, produit de bonheur brut au lieu d'un produit intérieur brut. Et le cinéma aussi. Voilà, si ça devrait être une des missions, ce serait surtout ça, c'est de questionner la part du bonheur dans le drame, parce que quand on va au fond de tout sujet, il y a toujours un drame. Il y a toujours plusieurs drames. Il y a toujours peut-être un drame, c'est de la mélancolie, c'est de la tristesse. C'est pour ça que Lunette, comme tu dis, Clémence, touchée par le personnage, dit c'est triste. Pourquoi c'est triste? Alors que Bourguima incarne justement le contraire de la tristesse. Autrement, il serait pas là. Il serait déjà mort. Et voilà.
Oui, à la limite, il a de la révolte, mais il n'a pas.
Oui, la révolte, c'est.
Une révolte presque enfantine, mais il n'a pas de.
Et toute révolte aujourd'hui, elle est automatiquement encadrée.
Encerclé, en tout cas.
Voilà, et puis après on en fait un modèle d'échec. On n'en fait jamais d'une révolte un modèle de réussite ou un modèle qui c'est donc
c'est parce qu'on est du côté de l'histoire, enfin que l'histoire se raconte du côté des dominants. C'est pour ça que finalement même cette idée de l'histoire des sentiments, ou l'histoire du bonheur, ou de l'histoire des vaincus, qui est l'idée de Warzin, en fait, ces histoires-là, elles vont toujours exister. Après, c'est pas l'histoire dominante, c'est pas l'histoire qui va être écrite.
Encore que, maintenant, ça dépend à quel endroit on l'apprend, encore que... Non, par contre, je pense que ce que dit Ander, c'est quelque chose d'un peu plus délicat à surprendre. Enfin, c'est-à-dire, c'est lui comment il s'explique sa propre histoire quand il est en exil. Parce que ça passe par effectivement ce qui est un texte en rapport, qui est le journal d'exil, où lui est dans des situations concrètes. Et de la même façon que Brecht, à des moments, on va se poser ce genre de questions et il va y répondre par la poésie. Et c'est absolument pas dire que. Enfin, même, puisqu'ils se prennent eux-mêmes comme des solitudes vraiment totales, parce que c'est des solitudes d'exil qui sont pas dans. Pour le cas d'Anders, il n'est pas dans le même cas qu'Adorno, etc. Et ils ne sont pas dans un petit milieu qui leur permette de... Voilà. Et ils se démerdent tout seuls dans un appartement avec, en plus, une malle qui est énorme avec toutes les affaires de ses grands-parents. Donc voilà. Donc là, il y a un poids de l'histoire individuelle. Donc l'histoire des sentiments, ce n'est pas l'histoire du bonheur ou de l'espoir. C'est le renvoi à nous-mêmes vis-à-vis de l'histoire, en fait.
Ah, mais c'est un jeu, quoi. Voilà. Un jeu, enfin,
ouais.
Un jeu vieux.
Mmh. Ouais.
Histoire, bon, nous arrivons à la fin.
Ouais. Ben, ouais. J'allais conclure, en fait, sur cette histoire aussi de cette histoire spatio-temporelle, en fait. Du coup, je reviens à François, où elle parle, en fait, elle parle de l'Orient, où elle a un peu vécu, et elle dit que ce qui la tamponne là-bas, c'est cette histoire de passé-présent qui sont toujours présents. Et du coup, voilà, je voulais juste introduire une chanson qu'on a choisie pour la fin de l'émission. C'est un clin d'œil à un ami qui est en train de réaliser un film à Haïti. Et donc là-bas, il y a un musicien, enfin là-bas, peut-être c'est un musicien, peut-être c'est un mec qui vient d'Haïti, qui est maintenant, je crois, en Angleterre, et qui fait de la musique. Donc son truc, ça s'appelle Haïti Grand Zero, et en fait, il reprend des sons d'Haïti qu'il remixe. Et cet après-midi, je cherchais un son de lui et je suis tombée sur, il explicite le son qu'on va vous passer. Et la traduction, telle qu'elle, sans chercher à arrondir les angles, ça donne ça. Et je trouvais ça très beau. Il dit, c'est un hymne à la survie, un hymne au cauchemar et à l'éveil. Après le tremblement de terre, un remix de l'histoire et de la tragédie, la reconstruction.
Voilà.
Et donc juste vous dire aussi que donc c'est 21 et 22 mars à Vidéodrome 2, les films de François Prenant, de Hassan Ferrani, Nabil Tedjouani et de Gilani Saadi aussi.
Gilani Saadi, voilà. Ben merci à Caro, Julie, Clémence, Waïb, Fab, qu'on n'a pas entendu mais qui avait les oreilles... qui a beaucoup écouté. On vous retrouve pour la prochaine mission le lundi 2 avril à 21h30 sur les ondes de Radio Galère. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir. This is Haiti Ground Zero, a remix, a story of reconstruction, the story of survival, the story of incarnation, reincarnation, disincarnation, disintegration, and regeneration.